Sur Fréquence Mistral, Digne-les-Bains, j'ai le plaisir d'accueillir François Ragolski. Bonjour François.
Et bonjour, un plaisir pour moi.
Alors vous êtes dinois, comme beaucoup d'auditeurs le savent, et vous êtes parapentiste. Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel est déjà ce que vous avez pu faire? On va parler un petit peu de votre présent et un petit peu de votre futur, si vous le voulez bien.
Ma foi, comme vous l'avez dit, donc du parapente. Donc je m'entraîne en voltige spécialement, donc il y a plusieurs disciplines en parapente, il y a la distance, la pression d'atterrissage, la voltige, donc moi je suis plutôt dans la voltige, donc je fais des figures au-dessus de ligne.
Mais vous faites des figures, vous les dessinez avant, au niveau, à l'échelle terrestre?
On les réfléchit au sol, on les répète un peu dans notre tête, un peu beaucoup, et en l'air on n'est pas tout le temps en train de faire des figures, donc on passe beaucoup de temps à y réfléchir, la sensation qu'on aura, la manière où on va entamer la figure. Et puis, c'est beaucoup, surtout, d'heures de pratique dans le ciel.
Et le ciel, il y a du vent. Les figures que vous faites sont sujettes au vent. Comment ça se passe quand il y a des thermiques qui se lèvent ou quoi
de ce genre ? Ma foi, le thermique, c'est un peu comme une turbulence. Donc, quand on a des turbulences, c'est sûr que ça peut nous perturber. Mais en général, on est plutôt dans de l'air qui se déplace. C'est un peu comme une mouche qui ferait du freestyle dans un avion. L'avion, elle ne le sait pas qu'elle est dans un avion. Donc nous, on est dans une masse d'air qui se déplace. On n'est pas censé savoir qu'on se déplace. Et s'il n'y a pas de turbulence, on est comme la mouche dans l'avion. On envoie des figures et quand on a terminé, on se rend compte où on est parce que le vent, effectivement, nous a décalés.
Mais vous réfléchissez beaucoup quand vous êtes en l'air comme ça ?
Non, j'ai trop volé là. Maintenant, ça devient automatique. Je me sens plus à l'aise en l'air qu'au sol maintenant.
Ouais. Et le premier pas ou le premier vol, comment ça se passe ?
Ma foi, les premiers vols, c'est sur des pentécoles, on n'est pas très haut, 1 mètre du sol, 2-3 mètres du sol, on comprend ce qui se passe parce que les reliefs défilent autour de nous, donc c'est assez simple hein, au début le parapente.
Oui, mais et la pratique du parapente quand on est novice, il y a un accompagnateur, vous volez en
de voler tout seul, on peut voler en biplace, mais ce n'est pas obligatoire, on peut se lancer au bout de 2 jours de pentécole sans aucun problème pour les premiers grands vols. Après, c'est quand même un peu accompagné d'un moniteur qui a une radio qui vous guide au décollage, l'atterrissage. Et avant d'être autonome complètement, il faut quand même un certain nombre de vols.
Et ce nombre de vols, justement, il y a un quota spécial ou c'est la personne qui est douée qui vole de ses propres ailes?
C'est ça, on a de la chance en France, c'est un des rares pays où c'est complètement libre. Donc on fait vraiment ce qu'on veut, une fois qu'on se sent, on peut aller voler, il n'y a aucune règle. Sachant que, bon, on est des humains, on n'a pas envie de se faire mal, donc on est prudent. Certains vont aller voler au bout de 10 vols, certains au bout de 200. En moyenne, une trentaine, une quarantaine de vols, on se sent autonome.
Et là, vous dites qu'en France, on est libre, mais quand vous volez à l'étranger, il y a des contraintes ?
Non, on a le brevet français et ils nous le donnent sans aucun problème.
C'est comme le permis européen ?
C'est plus un permis mondial même.
Hein. Oui. Oui, justement, parce que le permis européen, c'est bon, mais aux États-Unis, c'est peut-être différent, je ne sais pas.
Non, bah, par exemple, un Français ne pourra pas conduire une voiture en Chine, mais il pourra faire du parapente avec sa licence française.
Avec sa voiture ?
C'est mondial.
Voilà. Ah oui. Et vous êtes nombreux sur Digne à voler à...
Quand même, hein, le club il est assez actif. Je ne sais pas, on est une cinquantaine, je dirais, à voler régulièrement. Et puis, il y en a bien 10-15 qui volent tous les jours. Hein, vous ne les voyez pas, mais moi, aujourd'hui, j'étais à la Javie, j'en ai vu 3 voler au-dessus du couloir. On ne les voit pas toujours, mais... Il y a tout le temps du monde dans l'air à Digne.
Ouais, j'en ai vu un en mon téléobjectif. Un jour, j'ai pris de loin. Quoi. C'était vers le pic de Coire, justement. Quand il y avait la neige au fond, c'était assez agréable. Et au niveau conditions climatiques, justement, quand on est au sol, il y a certains degrés. Quand on est en l'air, c'est plus froid.
Ah ouais, quand on part en short du Cousson et qu'on se retrouve à 3000 au-dessus de l'Estro, il faut avoir prévu les gants, ça c'est sûr. Hein. Il y a des grosses différences de température. Bon, c'est pas non plus affolant.
Non ?
Non, avec une paire de gants et... Et un tour du cou, on fait du parapente sans problème.
Ouais, mais quand vous revenez sur Terre, vous êtes obligé d'avoir vos jambes, elles ne peuvent pas être tétanisées par le froid, non ?
Ma foi, on sait plus ou moins à quelle température il va faire. Avec un pantalon de ski, on est bien. Et puis bon, quand on est en artérie, on l'enlève, on remet les tongs.
D'accord. Et justement, sur Digne, donc vous parlez du Cousson, vous sautez du relais là-haut. Il y a d'autres sites près de Digne où c'est acceptable ?
Disons qu'à Digne, c'est vraiment le site idéal pour le pratiquant lambda qui promène et qui a envie de faciliter. Pour les débutants aussi, c'est vraiment bien. Après, pour d'autres types de vols, il y a Saint-André-les-Alpes, Saint-Vincent-les-Forts. Saint-Vincent-les-Forts qui est sans doute le plus bel endroit pour voler dans les alentours. Et après, on en a beaucoup, Oraison, Barème, Sisteron, il y en a un peu partout des spots pour voler.
Est-ce que des différents sites, on peut aller sur d'autres sites?
Ah, sans problème, ouais. Hein, sans problème. Il n'y a pas si longtemps, j'ai encore un copain qui a décollé à côté de Nice et qui a posé en Suisse, à côté du lac Léman. Donc ça fait un vol de plus de 300 km. Oui, oui, on peut parcourir beaucoup de distance.
Là, quand c'est comme ça, c'est la personne qui choisit ou c'est les vents qui le mènent là-bas?
Non, non, quoi qu'il arrive, on a toujours la possibilité d'aller où on veut. Hein. On se dirige comme un peu comme une voiture, disons, comme un avion, plus simple, plus exactement. Donc on voit le vent, on dit tiens, le vent, là, il est favorable pour m'emmener dans plus ou moins par là. Et après, bon, si on veut aller à contresens, on peut aussi remonter le vent, mais c'est plus compliqué, on va faire un peu moins de kilomètres.
Et donc vous êtes obligé d'être équipé en radio pour votre salut, non? Même pas
du tout, pas du tout. Si on met fréquence Mistral dans la radio, c'est dans les oreilles, c'est juste pour le plaisir. On peut, si on est avec des amis, moi quand je vole avec des copains ou ma copine, on met la radio, mais c'est pas du tout une obligation.
Radio, je parlais de radio pour communiquer avec le sol. Hein.
Oui, j'avais compris. Ouais. Ouais. Non, cette radio-là, on n'est pas du tout obligé. Il y en a qui volent avec des écouteurs pour écouter de la musique, il y en a qui volent avec la radio pour parler avec leurs copains. On fait ce qu'on veut.
Et justement, quand la personne que vous parliez est partie de Nice pour arriver en Suisse, quand il va en Suisse, il faut avoir des moyens. Parce qu'on atterrit en Suisse, l'autostop pour redescendre, c'est un peu compliqué. Il faut avoir des moyens pour se loger, pour se nourrir.
Bah, c'est pas un vol qui se fait tous les jours. Hein. Et puis bon, une fois qu'il est là-bas, il est content parce que c'est quand même un super vol. Ça passe à côté du Mont Blanc, tous les écrins, tout ça. Donc c'est vraiment... Disons que le retour est un peu galère. Il faut un peu 2-3 bus, un train... Mais on en prend plein les yeux, ça vaut le coup.
Mais quand vous êtes en l'air, vous êtes déconnecté ou quand vous vous rapprochez du relief, que vous vous dites « Ah, là, il faut que je me remette dans le sens de la marche ».
Plus on est loin du sol, plus on est relâché, ça c'est sûr, parce qu'on a moins d'obstacles et plus de possibilités de vol plané pour aller très loin. Et effectivement, plus on se retrouve au fond d'une vallée, on se dit « Bon, bah là, il va falloir choisir un atterrissage ». Et ça dépend de l'expérience aussi, parce qu'avec l'expérience, on sait toujours plus ou moins où on est et où on va.
Et justement, quand vous êtes en l'air comme ça, est-ce qu'il y a des endroits dans notre micro-région qui sont plus agréables à l'œil?
Ah, il y a des endroits qui sont très favorables au parapente et d'autres qui ne le sont pas du tout. Hein. Par exemple, si vous allez voler au fin fond de la Robine, ça va être beaucoup moins sympa que si vous êtes au-dessus de la Blanche. Une des classiques chez nous, c'est la chaîne de la Blanche qui va de Seine-les-Alpes vers Saint-André-les-Alpes. Voilà, on passe au-dessus de l'Estrault, plus ou moins au-dessus de Prat, par là-bas. Là, ça, c'est vraiment un grand classique où on sait que ça marche tout le temps. Après, il y a des endroits comme Entrage où on va éviter d'aller faire du parapente parce que c'est du mauvais côté de la montagne. En fait, chaque montagne a un côté qui va être favorable et un côté qui va être moins favorable.
Et c'est quoi au niveau de la direction du vent? C'est l'ensoleillement?
C'est lié à l'ensoleillement, mais surtout à la direction du vent. Et la direction du vent, en fait, il faut imaginer de l'eau dans une rivière, sur un rocher. D'un côté, l'eau va être toute belle, toute lisse et faire une belle vague. Et de l'autre côté, c'est des remous, c'est tout blanc et c'est de la mousse. Nous, on essaye d'éviter la mousse parce que c'est des turbulences et ça nous secoue jusqu'au sol.
Donc vous évitez d'écumer, quoi.
Voilà, exactement.
Et vous êtes quelques-uns sur Digne. Vous avez commencé au même moment. Comment vous êtes rejoints? C'est par sympathie? C'est par affinité?
Ma foi, comme tous les clubs, hein, le club existe depuis très longtemps. Et puis quand il y a un nouveau, on l'accueille dans le club. Et moi, je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait 13 ans que je vole. Le club existait bien avant ça. Et il existera, j'espère, quand j'arrêterai de voler encore. Et on a des nouveaux qui arrivent, qui nous rejoignent tout le temps.
Et le nom du club, c'est...
C'est le club Léonel.
Léonel, d'accord. Était rue de Provence avant? Il y a longtemps.
Non. Alors, l'adresse exacte du club, elle a bougé quelques fois, mais les pilotes sont toujours là et les atterrissages, les décollages, ils n'ont pas bougé.
Bien, on va écouter un petit peu de musique avant de reparler un petit peu de vous. Vous avez choisi Bob Marley. Alors, on va écouter un petit peu de reggae sur Fréquence Mistral. À de suite.
Save the life I live. I'm gonna be iron like a lion.
Nous sommes toujours avec François Ragolski, qui a l'amabilité de venir dans notre studio de Fréquence Mistral à Digne. Là, nous parlions un petit peu des différents reliefs, des différentes difficultés pour être dans les airs. Et quand vous partez à l'étranger, là, on parlait un petit peu plus de notre micro-région. Quand vous partez à l'étranger, c'est la découverte totale ou vous cogitez un petit peu avant là où vous allez?
Alors, il y a une grosse part de découverte. Après, maintenant, grâce à Google Earth, on a quand même une sacrée idée d'où on va. Et j'ai une petite tendance à quand même bien regarder Google Earth avant de partir quelque part et d'avoir beaucoup moins de surprises que ce qu'on aurait pu avoir il y a 10 ans en arrière. Il y a quand même une grosse partie découverte, surtout sur le plan humain. On ne sait pas les gens, on ne sait pas quelle personne on va avoir à faire quand on arrive. Et c'est toujours ça, la découverte.
Et entre Google Earth et le réel, il y a quelquefois de grosses différences?
Et de moins en moins, hein. C'est assez précis, c'est assez incroyable, même en Himalaya ou au Pakistan, dans les grandes montagnes, j'ai réussi à avoir des petits rochers. Non, c'est impressionnant, hein. Vous zoomez dans votre jardin, vous voyez votre voiture et c'est pareil.
Oui, enfin, il y a des gens qui prennent, qui viennent, qui filment, mais quand vous avez une voiture au même endroit, le lendemain que vous regardez, c'est toujours la même voiture, quoi.
Alors nous, on ne vole pas sur des voitures, hein, on vole sur des montagnes, et elles bougent moins facilement que les voitures,
non, voilà,
et on a rarement de surprises. Après, c'est sûr que l'enneigement ou la saison, ça nous change pas mal. C'est vrai que s'ils ont pris les photos en été et qu'on se pointe en hiver, c'est assez surprenant. Mais bon, après, quand on n'est jamais allé quelque part, il y a toujours un dépaysement.
Oui, mais c'est l'intérêt de la découverte, déjà.
Ouais, de toute façon, regarder un écran à la maison un peu flou ou y être pour de vrai, c'est peu comparable.
Ouais, il y a les odeurs, il y a toute manière, quoi. Et quand vous regardez sur Google Earth, est-ce que le relief que vous voyez peut être parlant par rapport à tout ce qu'il peut y avoir comme conditions climatiques?
Ah oui, parfaitement. Moi, je prépare mes vols grâce à ça. En 3D, je tourne autour de la montagne et je vois l'orientation du soleil et j'ai une idée très précise en plus maintenant avec toutes les zones qui ont déjà été volées dans le monde sont répertoriées et il y a même les traces en ligne, donc on peut même savoir plus ou moins où ont volé les gens avant. Ça donne des idées très très précises de ce qu'on va faire.
Et donc on va parler un petit peu de ce que vous faites actuellement. Vous en êtes où exactement?
Alors là, je suis en reprise d'entraînement. Je viens de passer 3 semaines aux Canaries, au large du Maroc, là sur les îles, pour m'entraîner parce que je me suis blessé au genou l'année dernière en ski. Et donc, je repars là pour une saison de Coupe du Monde. Donc, bon, on va voir hein, si j'arrive encore à faire des podiums. Si je vois qu'en un an et demi d'arrêt, j'ai trop perdu, je ferai d'autres choses.
Il n'y a pas de sport qui soit interdit par rapport à ce que vous faites?
Non, c'est bon. Ça fait un moment que j'ai le droit de tout faire. De toute façon, en l'air, on n'a pas besoin de beaucoup de muscles. Donc, il n'y a aucun problème. C'était surtout pour les réceptions en compétition où on est censé faire le show jusqu'au sol. On pose pas toujours comme des fleurs comme on devrait en parapente et c'était mon problème l'année passée, c'est pour ça que j'ai pas pu aller en compétition et là c'est réparé donc ça va le faire.
Et si vous êtes bon pour le service, l'échéance, la prochaine, quelle est-elle?
Le 23 juin en Norvège, c'est une Coupe du Monde.
Et ça sera une Coupe du Monde de quel style? Toujours acrobatique?
C'est acrobatique, donc c'est des figures au-dessus d'un lac, c'est magnifique comme endroit et... Et j'ai gagné 7 fois là-bas, donc j'espère que ça va bien se passer.
Oui, pourquoi? C'est toujours au même endroit ou ça varie?
C'est souvent au même endroit, mais c'est une compétition que... ça varie souvent, pardon, mais celle-là, c'est une qui dure et depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup.
Ah, depuis longtemps, vous retrouvez toujours les mêmes têtes? Ça change?
Alors, les têtes des locaux, ça change. Les têtes des pilotes, ça change aussi. Mais évidemment, comme dans toutes les pratiques, il y a quand même quelques personnes qui restent.
Est-ce qu'il y a des hommes à abattre quand c'est comme ça?
Ah là, ça devient compliqué. Là, honnêtement, oui, là, le haut niveau mondial, il a vraiment explosé dans les 20 dernières années. Il y avait 3 pilotes il y a 20 ans, 10 il y a 10 ans. Là, maintenant, il y en a peut-être 200, 300. Moi, en concurrent direct, j'en avais 5-6 il y a 2 ans. Et là, j'en compte une bonne vingtaine. Donc oui, ça augmente.
Mais une fois que vous êtes au sol, que la compétition est terminée, la fraternité est là?
Oui, on a vraiment la chance d'avoir peu d'argent en jeu. Donc bon, ce qui nous impose une vie tout à fait normale, comme tout le monde, on n'est pas des stars du football, mais par contre, ça a le gros avantage d'être humain et voilà, on partage tous une bonne bière après une journée d'entraînement sans aucun problème et on se donne même des conseils, même en finale des championnats du monde au décollage, il y a des conseils entre les leaders. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans peu de disciplines. Moi, je viens du ski, où l'ambiance est très compétitrice. Et même dans le parapente de distance, c'est beaucoup moins agréable. Nous, en voltige, on a vraiment cette chance d'être très amical à tous les niveaux.
Et quand vous êtes dans les airs, vous êtes seul ou vous êtes en compétition en même temps avec d'autres?
Alors parfois c'est des batailles, donc on est deux en même temps et le jury nous donne un gagnant à l'atterrissage, ou alors c'est un par un et c'est au point. Ça dépend des formats, on est de plus en plus dans les batailles maintenant. C'est la mode, c'est un par un, et arrivé en bas, il y a le public aussi qui vote, on fait rentrer des VIP dans le vote, donc les batailles, je pense que c'est le futur.
Là, vous disiez qu'il y a 20 ans, c'est le parapente, c'était d'une certaine façon, les voiles aussi ont évolué?
Ah, les voiles, elles sont incroyables, hein. Maintenant, bon, le parapente, c'est toujours aussi dangereux qu'avant, mais plus du tout pour les mêmes raisons. Avant, les voiles, elles pouvaient se fermer et pas se rouvrir. Là, maintenant, il n'y a aucun danger du tout sur le matériel, c'est irréprochable. Par contre, maintenant, le problème, c'est bon, les pilotes, hein, on est des humains, on n'a pas de règles, on peut faire les oeuvres comme on veut, c'est comme le vélo de descente ou comme si on conduisait une voiture sans règles, sans police, sans limite, on prendrait plein de risques et c'est pour ça que c'est dangereux le parapente. C'est nous qui le rendons comme ça.
Vous fixez des limites, des règles?
Moi, j'ai quand même suffisamment d'expérience pour connaître tous les dangers et essayer de ne pas m'en rapprocher trop, mais évidemment, on est toujours joueur, donc il y a quand même des risques.
Ah oui, vous devez souvent vous donner des challenges?
Ouais, sans donner des gros challenges, de temps en temps, des petites choses, et le risque est jamais très loin, finalement, quand on commence à faire le clown.
Oui, c'est sûr. Mais en partant, quand vous volez, quand vous décollez, que vous êtes tranquille, il n'y a pas une petite souris dans votre tête qui vous dit, à un moment donné, là, je veux aller, alors que ce n'était pas prévu?
Ah non, si je fais un vol tranquille, il n'y a vraiment aucun risque. Je suis beaucoup plus détente que dans toutes les autres choses que je fais dans ma vie. Un vol où je ne vais pas faire de voltige, où les conditions sont bonnes, je me sens en sécurité à 200%.
Est-ce que comme pour les motards, quand ils sont sur la route, qu'ils se croisent entre motards, ils font un bout de route ensemble, est-ce que quand vous êtes dans les airs, vous croisez, entre guillemets, un parapentiste? Est-ce que vous faites un bout de...
Ah oui, complètement. Il y a des fois... Bon, maintenant, on a des logiciels le soir où on peut mettre nos traces en ligne et retrouver les gens avec qui on a volé. Donc, c'est marrant. Des fois, on rencontre un gars à l'angle d'une montagne. On vole pendant 4 heures. On a cru reconnaître un copain. Et puis, le soir, on se rend compte qu'en fait, c'est quelqu'un d'autre. Ou des fois, on n'a pas reconnu justement un ami. Et en allant en ligne, on arrive à retrouver. Tiens, j'ai volé 2 heures avec un tel que je connais depuis 10 ans. Je n'avais pas reconnu. Mais c'est sympa.
Ouais. Vous avez des couleurs pour le club?
Pas du tout, non, parce que bon, les voiles, chacun a sa préférence, hein, donc on s'habille comme on veut, on met les voiles qu'on veut, et non, il n'y a pas de couleur.
Et au niveau de la voile, vous avez un fournisseur officiel, sans citer forcément de marque, mais hein, avec lequel vous travaillez, qui fait de la belle matière?
Alors moi, j'ai la chance d'avoir les meilleures voiles de voltige qui existent sur le marché depuis 4-5 ans, là, et personne n'arrive à les rivaliser, donc j'ai cette grande chance. Et en distance, j'ai aussi un partenaire allemand là, qui fait des voiles qui sont vraiment irréprochables aussi.
Est-ce qu'il y a des réglages spéciaux?
C'est très 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 compliqué, c'est au millimètre près. Ouais. Dès qu'il commence à faire un petit nœud dans une petite selle, ça change tout. Donc moi j'essaie de rester loin de la conception parce que c'est vraiment un métier prenant qui occupe 100% du temps. Donc j'essaie de pas trop m'en rapprocher. Si la voile marche pas, je la renvoie directement pour en avoir une autre.
D'accord. Et pour tout ce qui concerne le reste du matériel, vous êtes harnaché. Là, les conditions et les règles sont très strictes.
Alors, les règles en termes d'homologation, elles sont strictes. Après, nous, on choisit bien ce qu'on veut. Si on veut prendre un truc qui a été cousu dans un garage au Brésil, il n'y a pas de souci. Hein. On s'équipe un peu comme on veut. Après, avant d'arriver à casser une sellette de parapente, il faudrait vraiment y aller fort. Hein. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, les dangers, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le pilote. Et ce qu'il a dans la tête de faire le clown, mais le matériel est irréprochable.
Et quand vous êtes dans les airs, il y a un point limite en hauteur que vous...
Alors,
au niveau oxygène, hein.
Alors au niveau oxygène, c'est 5000, 6000, ça dépend des fois. Ça dépend aussi des endroits sur la planète. En Norvège, il y a moins d'oxygène qu'en Équateur. Donc on va monter moins haut, mais la limite, c'est surtout les essences thermiques. C'est assez rare de monter au-dessus de 4-5000. En France, 5000, c'est le bout du monde. Et de toute façon, on est limité par la réglementation aérienne qui sépare les espaces. Et au-dessus, c'est pour les avions de ligne, c'est pour les militaires. Nous, on est limité à 4005 dans les Alpes, un truc comme ça. On y est rarement. Et voilà. L'année dernière, j'ai un copain qui a volé à 8100 et quelques au Pakistan, au-dessus du Broad Peak. Ça, c'est autre chose, avec de l'oxygène.
Et quand vous prenez un thermique, ça fait comme un bouchon de champagne?
Alors, parfois, ça fait quand même bouchon de champagne, donc ça, c'est les meilleurs. Mais non, en général, ça fait Une petite sensation un peu comme quand on part avec un ascenseur, j'ai envie de dire.
Sauf que là, vous êtes tout seul.
Enfin, sauf que là, l'ascenseur est très grand et vous pouvez tourner en rond dans l'ascenseur et en sortir, en rentrer quand vous voulez. Et il ne s'arrête pas au deuxième étage. Il monte parfois à 500, 1000, 2000 mètres.
Et quand vous êtes dans les airs, il n'y a pas de, comme pour la sensation de profondeur, l'ivresse de profondeur, d'être là-haut puis de larguer complètement les amarres?
Ah non, ça j'ai souvent entendu parler de ça sous l'eau, mais non, en parapente, on a rien de ça.
Et vous, quand vous êtes, vous avez une autonomie bien précise quand même, parce que on revient sur votre collègue là qui a fait Nice, la Suisse, au niveau fringale, au niveau.
Alors si on part pour voler toute la journée, c'est quand même assez intelligent d'avoir prévu quelques biscuits, voire un sandwich ou un camelback. Après, bon, on est des humains, hein. Si vraiment on a trop soif, trop envie d'aller aux toilettes, on peut se poser quand on en a envie. C'est vrai que quand on est au milieu d'un record du monde, ou d'un record personnel, hein, c'était toujours rageant de devoir poser pour aller boire un coup. Donc à nous de partir avec ce qu'il faut.
Et quand vous arrivez à vous poser, c'est pas la question, vous arrivez tout le temps, mais quand vous êtes en situation pressante, que vous êtes obligé d'atterrir, pour repartir, comment vous faites ?
Alors si on pose dans la vallée, bon ben on est obligé soit de marcher pour remonter au décollage, soit partir en voiture. Après le mieux c'est de reposer au sommet d'une montagne, hein, c'est pas un souci. Ça dépend des montagnes, c'est sûr qu'il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres. Mais bon, moi j'arrive assez bien à me reposer un peu où je veux, en haut d'une montagne, faire pipi et repartir.
Un timbre-poste suffit.
Alors c'est pas tant l'atterrissage qui compte, c'est plus ce qu'il y a autour. Il faut pas qu'il y ait d'obstacles et que le vent il arrive plutôt bien. Après oui, un espace assez petit peut suffire si le vent est bien et qu'il est dégagé, mais bon, plus c'est grand, plus c'est facile.
Oui. Et depuis que vous faites du parapente, vous avez un ami qui fait à peu près la même chose, qui vous suit ?
Oula, j'en ai pas qu'un, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai un peu partout autour du monde maintenant, et j'en ai avec qui je voyage régulièrement toute l'année. Là, j'étais avec mon partenaire avec qui on a gagné deux fois la Coupe du Monde en synchro. On vient de passer 20 jours ensemble aux Canaries, ainsi que Thibaut Ferré, un ami de Seine, là, avec qui on vole ensemble depuis 12 ans, et on est dans le même team, et oui, on se suit, mais c'est une petite famille.
Et vous, entre clubs, il y a des échanges ?
Alors actuellement, là, dans les Alpes du Sud, on a des échanges avec Saint-Génier et le club d'Oraison, là, c'est les trois clubs qui se réunissent. Alors c'est journée à Sisteron, on fait le barbecue, on vole ensemble, ensuite c'est une journée ici, et c'est les clubs qui se mélangent et qui volent de manière très amicale. On a ça, oui.
Mais est-ce que le parapente, c'est un domaine d'hommes où il y a des femmes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu ?
On a des femmes qui s'en sortent très 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 bien. On a plus d'hommes que de femmes, comme dans beaucoup de disciplines sportives, mais on a quand même pas mal de femmes aussi.
Mais vous recrutez ou elles viennent d'elles-mêmes ? Comment ça ?
Alors, on ne met pas des affiches en disant « recherche des femmes », parce que je ne suis pas sûr qu'elles viendraient, mais non, c'est un peu comme toutes les disciplines. On est attiré par faire du parapente, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas grand-chose après. On a plus d'hommes, allez savoir pourquoi.
Bon. Avant de se quitter, on va écouter un Joe Jackson, Chacha Loco. On se retrouve juste après, puis vous allez nous parler un petit peu de si jamais il y a le futur s'interrompt, ce que vous avez peut-être prévu de faire, si votre genou continue à vous faire des misères ou pas.
Shoot horses. dress. At Santa Maria Falls once a year, the good champagne. Tomorrow night it's back to beer. But now you're here, you'll dance all night, but never get the steps quite right.
Alors apparemment, c'est pas trop un problème de genou, c'est plutôt un problème de tendinite que vous auriez, François.
Oui, oui. Alors les heures d'entraînement à répétition m'ont quand même bien abîmé les tendinites, les épaules, pardon. Et résultat, je suis pas certain d'arriver à m'entraîner suffisamment d'heures pour recoller au niveau mondial actuel, mais je vais essayer.
Ah oui, parce que tout le monde continue, tout le monde n'a pas forcément des pépins de santé.
Oui, il y en a des jeunes, hein, il y en a qui ont 15 ans. Là, j'étais justement en Italie, en Espagne avec un Italien qui a 18 ans et lui, on n'a pas étendu. Ah bon, t'as mal aux épaules, mais c'est bizarre, pourtant on force pas trop en parlant. Et, ouais, bah, tu verras.
Ah ouais, c'est pas tant la compétition, ce que vous disiez, c'est plus les entraînements qui vous minent.
Oui, une compétition, ça dure une minute, donc on force pas, enfin pas longtemps. Par contre, un entraînement, quand on vole pendant 8 heures et pendant 3 mois, 8 heures par jour à forcer sur les bras, oui, ça fait des grosses tendinites. Ouais.
Et ces contraintes, c'est vous qui vous les donnez et personne d'autre ne vous les donne.
Ah non, ouais, non, ça c'est sûr. Ça, on fait comme on veut. On est peu médiatisé, peu financé. On sait que pour le plaisir, la gloire. Donc ça, on n'a aucune contrainte. Même la fédération nous encourage gentiment, mais on n'a aucune obligation.
Vous n'avez pas d'entraîneur?
J'ai un coach, hein, et il est bien content quand je m'entraîne, mais ce n'est pas lui qui va venir me mettre la fessée si je ne vais pas.
D'accord. Et les 8 heures d'entraînement, petit à petit, donc vous avez augmenté ces heures d'entraînement. Il y a vraiment un maximum de par jour, ou de faire 4 heures simplement par jour pendant 2 semaines plutôt que 8 heures pendant une semaine, c'est différent?
Alors le problème, c'est que la météo, quand elle est bonne, c'est il faut en profiter. Il y aura toujours des pilotes dans le monde qui vont utiliser tous les créneaux pour s'entraîner. Et si on utilise tous les créneaux, on sera forcément meilleur que celui qui s'entraîne moins, parce que bon, on peut dire dans 2 ans j'aurai le niveau que je pourrais avoir en un an, mais bon, dans 2 ans le niveau mondial il sera plus haut, donc ça marche pas.
Et de s'entraîner avec les différentes conditions climatiques, c'est un plus. Hein.
Ah oui, il faut s'entraîner quoi qu'il arrive, hein, ça c'est sûr. Après, si les conditions elles sont pas efficaces, on peut malheureusement pas en tirer grand chose comparé au vol de distance où en vol de distance, il faut être bon, quelles que soient les conditions, bonnes ou mauvaises. De toute façon, il y a un moment dans le vol où il va y avoir un mauvais moment à passer. Nous, en voltige, on s'entraîne un peu sans les conditions. Nous, les conditions, elles nous permettent seulement de monter. Mais l'entraînement réel, il est dans la descente. Donc, on monte grâce aux conditions, mais ça ne changera pas notre niveau technique. Notre niveau technique, c'est plutôt quand on envoie les figures et les figures, elles descendent. Donc les conditions, elles nous permettent surtout de faire beaucoup d'heures. Et il ne faut pas les louper parce que c'est les heures qui font le niveau.
Et le après pour vous, alors, est-ce qu'en étant dans l'acrobatique et en voltige, vous pouvez changer de discipline?
Alors, en général, les bons pilotes de voltige se retrouvent souvent en Coupe du Monde de distance. Parce qu'une fois qu'on sait bien piloter, c'est facile de faire de la distance. Et ça me plairait, donc je vais peut-être aller y faire un tour. Et je suis déjà plus attiré pour l'instant pour faire des expéditions. J'en ai fait quelques-unes et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur la planète et à faire en parapente. Donc j'en ai fait pas mal et j'ai l'intention d'en faire encore d'autres. Donc les expéditions, les vidéos, les compètes de distance, oui, ça fait... Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le parapente, même si j'arrête la voltige.
Vous pourriez faire des films ?
Alors, on en a déjà fait, j'en referai certainement, ça c'est sûr. Après, il faut avoir des idées, il faut avoir des scénarios, il faut avoir la passion pour le faire. Et pour l'instant, je l'ai, j'en fais régulièrement. Tous les ans, j'ai 2-3 vidéos qui sortent. Donc oui, je compte continuer.
Le fait de faire des films, ça vous permet de vivre ?
Alors très peu, parce que en fait, les films, on va gagner de l'argent et ils ne rapportent pas autant que ce que coûtent ceux où on en perd. Donc oui, de temps en temps, on gagne un peu d'argent, mais c'est pas pour l'argent qu'on le fait.
Et donc, vous seriez prêt à changer de catégorie par la force des choses et par goût. Du fait de changer de catégorie, ça vous rallonge votre carrière, entre guillemets, pour le mot carrière ?
Alors, je pourrais, mais c'est vraiment pas pour la carrière, c'est vraiment pour le plaisir, pour découvrir quelque chose de nouveau et avoir de nouvelles sensations. Après, c'est vraiment une autre discipline et d'autres enjeux. Ça prend plus de temps, il faudrait se réentraîner. Donc, ça veut dire pas mal d'années avant de rentrer dans le haut niveau, réellement. Enfin, je pourrais vite rentrer dans le haut niveau, mais dans le bas du classement. Et c'est quand même un gros investissement. Et la transition, elle va être compliquée à faire si je n'y vais pas à fond. Donc, j'attends de voir déjà ce qui se passe quand le jour où j'arrêterai la compétition de voltige, j'aurai le temps d'y réfléchir.
Et la voile est différente ?
Ah, la voile, elle n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Et la manière de piloter n'a rien à voir aussi. C'est beaucoup plus... avec des réflexions, avec la compréhension de la masse d'air et où est-ce qu'il va falloir passer, c'est beaucoup plus intellectuel que la voltige où c'est plus des sensations.
Intellectuel.
Il faut réfléchir en distance, beaucoup plus qu'en voltige.
Merci François. Eh bien, le studio de Fréquence Mistral est ouvert si d'aventure vous voulez revenir nous voir. Ce sera avec plaisir.
Volontiers, merci beaucoup, merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.